Bonjour, je suis Joseph, je suis membre de l'association des Amis de Chemin de Saint-Jacques en Vienne. Ce matin, nous recevons Claude, qui est membre aussi de notre association, qui va nous parler de son expérience sur les chemins de Saint-Jacques et particulièrement de l'hospitalité.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de mon poste.
Bonjour Claude.
Bonjour Joseph.
Vous avez fait un chemin de Saint-Jacques, lequel ?
Eh bien, en 2005, je suis parti sur la voie du Puy et j'ai donc quitté le Puy-en-Velay en avril 2005 pour atteindre Santiago fin juin de la même année, bien sûr, ce qui m'a fait 2 mois de pérégrination.
Eh bien, ça s'est bien passé. Il n'y a eu pas trop de pluie, du beau temps, des rencontres.
Non, la période est relativement agréable, surtout les mois de mai et juin. Le mois d'avril était un peu plus rude, comme on peut l'imaginer, dans le Gévaudan ou dans l'Aubrac.
Oui, vous avez utilisé des hébergements, je pense.
Oui, alors tout au long du chemin, il existe un système de gîtes, un système d'hébergement qui est extrêmement divers, c'est-à-dire qu'on trouve des gîtes communaux organisés par les communes que nous traversons. On trouve des gîtes religieux dans les anciens monastères, dans des confréries, dans des fraternités religieuses. On trouve également des gîtes privés, qu'on trouve un petit peu partout, mais enfin qu'on appelle, vous connaissez les célèbres gîtes avec 3 épis et 3 étoiles. Bon, la grande différence entre chacun, c'est l'ambiance, une ambiance recueillie davantage dans les styles, dans les gîtes religieux, un prix modique dans les gîtes communaux, et un prix que je pourrais dire relativement élevé, dans les gîtes privés, ce qui se conçoit, puisque c'est le métier de ces hébergeants.
Donc, il n'y a pas eu de problème de réservation ? On réserve, on ne réserve pas ?
En France, la tradition, c'est que... Enfin, en général, la tradition était de ne pas réserver. On accueille le pèlerin. La réalité est tout autre. Alors, en France, on peut réserver à l'avance pour avoir une nuit ou deux. En Espagne, le système est tout autre. C'est la place... est libre pour le premier qui arrive. Donc il peut vous arriver de trouver des gîtes complets. Mais autant en France, quand un gîte est complet, il est fermé, autant en Espagne, quand un gîte est fermé et complet, il est toujours ouvert. Il y a toujours quelque part 2 matelas, un fauteuil, un peu d'aide. C'est la différence que j'ai trouvée.
Et vous n'avez pas eu de problème de continuer pour... Trouver un hébergement. Vous avez toujours trouvé un hébergement là où vous l'avez
non, pas,
choisi.
Non, pas du tout. Il m'est arrivé de trouver des gîtes qui étaient complets. Et puis, c'est un peu l'impulsion qui fait qu'on se dit, ben, on va continuer un peu plus loin. Peut-être qu'ailleurs, ce sera mieux. Ce n'est pas toujours vrai. Mais enfin, on trouve.
Les étapes n'étaient pas trop longues pour trouver un gîte.
Non, parce que le gîte, la voie du Puy, est fort bien équipée. Du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago... C'est très très bien équipé en gîtes, en relais, en abri, en assistance. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de pèlerins sur cette voie.
D'accord. Et vous avez donc choisi après de devenir vous-même accueillant.
Alors, à mon retour du pèlerinage, j'avais rencontré... beaucoup d'accueil, j'avais rencontré beaucoup de solidarité, j'avais rencontré beaucoup d'aide. Et je m'étais dit, il serait peut-être bien de voir l'autre côté du chemin. Non pas celui qui marche, mais celui qui regarde les autres passer et qui va les aider à passer. L'idée m'a trotté dans la tête plusieurs fois, plusieurs temps, et puis... j'ai fini par décider de me faire hospitalier et j'ai choisi... j'ai eu le choix, ou plus exactement, on recherche des hospitaliers. La vérité, c'est que les gîtes recherchent souvent des hospitaliers. Hein. Et je suis allé à l'abbaye de Bonneval, c'est dans la vallée du Lot, sur la voie du Puy, au pied de l'Aubrac, dans un monastère cistercien tenu par des moniales. Et j'y ai passé une dizaine de jours comme hospitalier.
Mais c'est sur un chemin, celui-là ?
Pas exactement. C'est sur la grande voie du Puy. Mais pour y venir, il faut faire un détour. Soit on passe dans l'Aubrac par une petite vallée qui descend et qui passe à l'abbaye. Soit on remonte d'Espalion vers le nord et l'abbaye se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord d'Espalion. Ce qui veut dire que mon cas était un peu particulier puisque je recevais des pèlerins qui avaient fait volontairement le détour pour venir à l'abbaye se reposer.
Mais ce refuge auquel vous avez été hospitalier, il dépend, je crois, d'Estaing, c'est pas ça ?
Alors, les bâtiments sont prêtés par les moniales de Bonneval. C'est une tour moyenâgeuse, carrée, 3 étages, un rez-de-chaussée vie commune, un premier étage dortoir des pèlerins et un second étage qui ressemble à des combles où l'hospitalier installe ses pénates. Matériellement, les moniales n'ont guère le temps de s'occuper des pèlerins, donc elles donnent les murs, l'électricité, parce que ce sont des moniales extrêmement à la pointe du progrès, elles ont leur propre centrale hydraulique pour fournir de l'électricité, et elles donnent également l'eau et tous les impédimenta nécessaires à la vie ordinaire. J'appelle ça batterie de cuisine, lit, matelas, etc. Et sur le plan matériel, c'est la fraternité qui est installée à Estaing qui a en charge l'hospitalier de Bonneval. C'est-à-dire que ce sont ces gens de la fraternité qui recrutent, qui installent, qui donnent des subsides, qui donnent un coup de main et qui gèrent la partie matérielle.
D'accord. Je crois aussi que ces moniales fabriquent du chocolat. Vous avez goûté ?
Comment ? Le chocolat ?
Du chocolat.
Oh, il est certain que tout le monde sait que les cisterciens, c'est un ordre bénédictin. Et que c'est 8 heures de travail, 8 heures de prière, 8 heures de sommeil. J'ai pu constater des visus que cet emploi du temps était tout à fait respecté. Et les sœurs travaillent, elles fabriquent du chocolat.
Hein, bon.
Un excellent chocolat, voilà. Qui n'est peut-être pas aussi connu qu'il devrait l'être, mais enfin qu'on trouve en vente, je crois, dans tous les établissements religieux. Hein. Et les sœurs travaillent très très bien parce qu'elles ne se contentent pas de fabriquer, de faire du chocolat avec des pâtes. Elles reçoivent directement le cacao et donc elles suivent tout le processus de la fabrication du chocolat.
Et vous pouvez nous dire un petit peu l'emploi du temps d'un hospitalier ?
Alors un hospitalier, je parle toujours de mon cas, un hospitalier, son but principal c'est bien accueillir, aider, consoler, conforter hein, et rendre le service auprès des pèlerins, auprès de ceux qui vont s'arrêter et dans le gîte. Donc la vie commence relativement tôt le matin, c'est l'installation du petit déjeuner, on met la table du petit déjeuner. Ensuite, puisque c'était un monastère, nous suivions le rythme de vie des moniales et pour ceux qui le souhaitaient, il existait, il y avait la messe qui était 10 à 8 heures. Ça correspond également à un office de prière des moniales, la deuxième prière de la journée. En même temps, il y avait la messe qui était célébrée dans l'abbatiale. À la suite de quoi, moi je passais, mes pèlerins s'en allaient. Je ne les gardais plus, je leur disais au revoir et je faisais à ce moment-là le ménage, tout simplement. Nettoyage de la salle commune, balayage, laver par terre, laver la vaisselle, ranger la vaisselle, et puis ensuite les chambres. Il y avait une grande salle commune pour dormir, un dortoir, une dizaine de lits. Alors je changeais les housses de traversin et les housses de matelas.
Tous les jours ?
tous les jours. De ceux qui avaient été des lits qui avaient été utilisés, bien entendu. Je balayais par terre, j'aérais. C'était un peu vieillot, mais je pense que la propreté extérieure d'un gîte représente notre marque de fabrique pour des pèlerins. Hein. L'état de notre esprit est net et notre extérieur aussi.
L'hospitalier reçoit les pèlerins, mais pas en fin de journée, je pense.
Alors, normalement, je recevais les pèlerins à toute heure du jour et de la nuit. Ça, c'est la réalité. Sinon, les pèlerins sont invités à se présenter à partir de 16 heures. Tout simplement parce que l'après-midi, comme je vous le disais tout à l'heure, on a d'autres activités. C'est-à-dire que l'après-midi, je travaillais pour les sœurs, je faisais du défrichage. À partir de 16 heures, je recevais les pèlerins qui arrivaient. C'était fort simple. Pose ton sac. As-tu soif? As-tu faim? As-tu mal? Et la consigne, tu ne t'occupes de rien, je ferai tout.
Y compris le repas du soir.
Et je préparais le repas du soir et je ne tenais compte que des particularités qu'ils pouvaient avoir, particularités médicales. Je ne mange pas de poisson parce que je suis malade, par exemple. Sinon, tout le monde avait droit au même repas. Et je faisais le soir régulièrement la soupe de légumes, légumes verts frais, une grosse salade de riz accompagnée de légumes frais à nouveau, éventuellement de poisson, de viande en boulette, des laitages, fromage, yaourt, et un dessert, des fruits. Une boisson. Alors, comme boisson, dans les monastères, on fait marcher le commerce. Bon, c'est-à-dire qu'on fait marcher le commerce du monastère lui-même et nous servions du vin. Hein, du vin à table, tout à fait. Du vin tout à fait correct. Je ne ferai pas de publicité, mais c'était du vin qui venait d'autres monastères et qui était vendu sur place. Voilà comment on procédait. Le soir, donc, après le dîner, une infusion pour ceux qui le souhaitaient. Et puis le tour était joué. Mais c'était ce que je disais à mes pèlerins. Je vous prends, je vous fais tout. Dernier épisode de la soirée, la prière du soir qui s'appelle autrement dans les prières religieuses chez les autres. Venez qui voulait, bien entendu. Et puis on peut dire une mise au lit aux alentours de 22h, 22h30.
Oui, mais le ravitaillement était amené
Alors, le ravitaillement, soit l'hospitalier est équipé et peut descendre à Espalion pour faire des courses et acheter ce dont il a besoin. Moi, j'étais dans un autre cas, j'étais un pèlerin à pied. Donc, c'était des gens de la Fraternité d'Estin qui me ravitaillaient. Je leur demandais ce qu'il me fallait. Et j'ai toujours eu des légumes frais, des fruits frais, des confitures maison. J'ai toujours eu des produits de très bonne qualité.
Et il faut quelques talents de cuisinier pour faire le repas du soir.
Oh ben je pense qu'on s'habitue. Et puis le pèlerin qui est affamé est tellement content qu'on lui fasse tout qu'il ne réclame pas grand-chose. Je ne sais pas si les pèlerins que j'ai eus ont été très heureux, s'ils ont engraissé, mais en tout cas, ils ne sont pas morts de faim.
Mais le repas est pratiquement le même tous les jours, si j'ai bien compris.
Oui, c'est-à-dire que moi, je mange le même repas tous les jours, y compris les restes, puisque j'étais nourri sur place. Pour les repas du soir, j'entends, parce que les repas du midi, j'étais accueilli à la communauté des moniales, hein, qui avait une salle à manger pour des gens qui venaient faire des retraites. Et donc, à midi, je déjeunais avec ces gens-là, puisque théoriquement, je n'avais pas le pèlerin. Bon, mais le soir, je prenais le même repas. Mais mes pèlerins, ne passant qu'une fois, eux, ils ne savaient pas qu'on mangeait tous les jours la même chose.
Non, c'est ce qu'on se rend compte quand on reste sur place et qu'on mange toujours le même repas, quoi. Là-dessus. Vous avez fait des rencontres particulières, des pèlerins que vous avez hébergés?
Alors, j'ai fait deux sortes de... plus exactement, des rencontres, oui, et puis une découverte. D'abord, j'ai découvert la vie démoniale dans une abbaye cistercienne. Une règle qui a dû être extrêmement dure à l'époque, qui s'est énormément assouplie. les moniales ne sont plus cloîtrées. Donc on les voit à la messe. Il est certain que l'abbatiale, la plus grande partie de l'abbatiale est réservée aux moniales et une toute petite partie aux laïcs qui viennent assister aux offices. J'ai vu des dames, des femmes qui se consacraient à Dieu, qui travaillaient réellement de leurs mains, la preuve le chocolat, la preuve leur potager, la preuve leur tenue de travail. Elles portent un sarrau, comme on dit en Poitou, une blouse avec des grosses godasses pour travailler. Elles conduisent leur propre tracteur, elles ont les mains calleuses, elles travaillent réellement. Et à côté de ces femmes qui travaillent durement, par tout temps, parce que les bords de l'Aubrac, c'est tout à fait sympathique en juin, juillet, août, mais en février, mars, c'est pas tout à fait ça. Et à côté de ça, des moniales qui apparaissent dans toute la blancheur et l'immaculité de leur tenue, hein, dans l'abbatiale pour chanter la gloire de Dieu. C'est extraordinaire de rencontrer ce style. J'ai pratiqué, j'ai écouté, j'ai assisté, j'ai participé à tous les offices des moniales. Je crois que le plus prenant est celui qui a lieu à 4 heures du matin, c'est le premier. Elles se lèvent à 4 heures et elles commencent dès 4 heures du matin leur journée par une prière, et j'ai trouvé que c'était, dans un monde matérialiste, ça nous change. J'ai découvert donc ce milieu que j'ignorais un peu, que je savais certes, mais je ne l'avais pas pratiqué. Les rencontres, elles, c'est autre chose. Les rencontres, j'ai rencontré des pèlerins qui avaient fait des détours pour s'arrêter. Donc à la différence de ce que j'avais vécu pendant mon pèlerinage, j'ai trouvé des gens qui ne venaient pas là pour dire qu'ils avaient mal aux pieds, pour dire que le chemin était meilleur ici que là. Ils venaient pour poser des questions. Donc nous avons parlé, pas de la société en général, mais de quelques cas particuliers. Une famille, un couple d'une trentaine d'années, deux petites filles, qui parlaient, qui m'ont parlé. Nous avons parlé de l'éducation des enfants, de l'éducation religieuse des enfants, de la façon de leur donner également la force et le courage d'affronter la vie de tous les jours. Et d'autres, une avocate suisse habitant Paris, qui de la même façon m'a engagé la conversation sur la possibilité de remplir deux fonctions, deux métiers, deux vocations différentes. D'un côté, être chrétien, et de l'autre côté, être officier dans une armée. Donc, par définition, un caractère violent opposé à un caractère de paix. Et c'est pour ça que ces rencontres étaient intéressantes pour moi, parce qu'elles sortaient de l'ordinaire. Je n'avais pas été habitué à rencontrer sur le chemin des gens aussi directs, car ce sont parfois des questions très indiscrètes et des discussions très indiscrètes. Pour un détail, pour cette jeune femme qui s'appelait Sandra, l'avocate suisse, elle était accompagnée d'une jeune femme, donc nous étions trois à table le soir. C'était pas la grosse affluence, Bonnefal. Hein. Nous étions trois à table le soir. Je leur avais proposé du vin, elles avaient accepté. Et ma Suisse tend la main vers la bouteille. Et je prends la bouteille et je lui dis « Attention, en France, ce sont les hommes qui servent à boire, pas les femmes. » Et je les ai servis. Après le dîner, je leur propose une infusion. Je prépare mon infusion, je la mets sur la table et Sandra prend la théière et me dit « En Suisse, ce sont les femmes qui servent la tisane. » Anecdote.
Ces pèlerins-là, ils payaient leur quote-part
Alors à Bonneval, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix affiché. Chacun donne ce qu'il peut, chacun donne ce qu'il veut, en fonction de sa satisfaction ou de ses possibilités. Bon. J'avais un tronc, une petite boîte en fer à l'entrée, c'était marqué, c'était dit. Hein, rien n'est gratuit dans la vie, tout le monde paye quelque chose. Et les pèlerins mettaient de l'argent. Certains, beaucoup. Je trouvais beaucoup. D'autres, très très peu. Mais il n'y a pas de critique à faire, chacun donnait en fonction. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'argent recueilli était suffisant pour faire tourner le gîte. Je parle uniquement de l'alimentation, puisque la location, l'électricité, le gaz et autres étaient payés par les sœurs. Mais pour la partie matérielle de tous les jours, alimentation, c'était suffisant pour faire tourner le gîte.
C'est une expérience que vous allez renouveler ?
Alors, expérience que je n'ai pas renouvelée, pêcher d'orgueil. J'ai trouvé que c'était tellement bien, ce que j'ai fait, que j'aurais peur d'être déçu en allant ailleurs. Par contre, je retournerai peut-être à Bonneval, oui, parce que je sais déjà ce qui s'y passe, quelle est l'ambiance de cet abri, quelle est la qualité de la vie chez les moniales. C'est quelque chose de tout à fait agréable et de peu ordinaire de vivre dans un monastère. Et justement, pour ceux qui souhaiteraient être hospitaliers à Bonneval, il suffit de téléphoner à la Fraternité Destin, dont vous trouverez le numéro de téléphone dans tous les annuaires, hein, pour vous proposer. L'abbaye de Bonneval est ouverte de juillet à mi-septembre. Et le séjour d'un hospitalier, c'est 10 jours. On vous demande 10 jours. 10 jours parce que c'est suffisant pour se mettre en jambes, pour être capable de pratiquer l'accueil, mais c'est aussi suffisamment long pour ne pas rentrer dans la routine. L'hospitalier qui me précédait était un Anglais anglican.
Donc d'une religion...
Anglican, donc j'allais dire pour les gens du mouillé de la Renaissance des hérétiques, mais anglican, qui pratiquait donc l'hospitalité sur le chemin. Il était seul et c'était un homme amusant puisqu'il allait il m'a expliqué qu'il allait d'abbaye en abbaye. Et soit il donnait un coup de main pour travailler et gagner sa croûte, soit il faisait... de l'hospitalité quand il le pouvait, soit il y venait uniquement pour une simple retraite de quelques jours. Et les gens qui m'ont succédé étaient des Hollandais. Un couple de Hollandais, le mari et sa femme, qui venaient pour pratiquer ce genre d'activité.
Et vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs pour changer un peu ou retourner que celui-là, quoi ?
Si, bon, il existe certainement toutes sortes d'endroits où on peut pratiquer l'accueil, où on peut donner de l'aide, où on peut donner des conseils à des pèlerins. Ça existe dans des gîtes ruraux, dans des gîtes communaux, partout. Partout, on a besoin d'hospitaliers. Parce que le plus de l'hospitalier, ce n'est pas la partie matérielle qu'il va donner aux pèlerins, c'est le témoignage que lui-même apporte. Car pour être hospitalier, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, il faut avoir été pèlerin. Autrement, on ne sait pas comment ça se passe. Et c'est dans cette partie de témoignage et de promotion du chemin que le rôle de l'hospitalier est peut-être le plus important, même si c'est lui qui est le moins visible.
Donc les portes sont ouvertes pour peut-être aller ailleurs.
Tout à fait, les portes sont ouvertes, moi, pour aller ailleurs, mais tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont été pèlerins, tous ceux qui souhaitent être pèlerins un jour, hein, peuvent aussi se lancer dans cette aventure, se proposer. D'ailleurs, je crois qu'à Poitiers, il existe déjà un système d'accueil dans les familles. Et j'ai entendu dire de personnes très autorisées qu'un gîte existerait bientôt et qu'on ferait peut-être appel à des hospitaliers.
Je vous remercie beaucoup, Claude, de votre prestation. Nous allons maintenant entendre le chant que tous les pèlerins chantent quand ils se réunissent ensemble le soir ou au matin au départ.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour.